cancer du sein.
Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent concourir à l'apparition du cancer du sein chez la femme?
Vous avez les facteurs hormonaux, donc hyper-œstrogéniques par exemple. C'est-à-dire que des femmes qui ont un taux d'œstrogène très très élevé, qui va stimuler la glande mammaire, ça peut être aussi un facteur de risque.
Qu'en est-il des antécédents familiaux? Sont-ils aussi impliqués dans le développement d'un cancer du sein féminin?
La prédisposition familiale. Le risque relatif augmente à peu près de 2 à 3 lorsque vous avez une parente de premier degré, c'est-à-dire une sœur ou une mère, qui atteint un cancer du sein. Et puis il y a les cancers dits héréditaires qui ne sont pas nombreux, heureusement. On pense que certaines femmes ménopausées, vous mettez une rondeur ou une fraîcheur, se font injecter régulièrement des hormones. Dans de 10 ans de pratique, cela peut devenir un risque réel pour le cancer du sein.
Certaines maladies dont la femme a pu souffrir antérieurement peuvent-elles aussi être impliquées dans la formation d'un cancer du sein chez la femme?
Bien sûr, vous avez les antécédents de pathologie, on peut également parler de la sédentarité, le manque de sport, l'obésité, tout ça sont des facteurs qui peuvent concourir à l'apparition d'un cancer du sein.
Puisque vous venez de parler de maternité, il y a un auditeur, Hippolyte Laoumaï, il se demande si une femme fait un mort-né, mais que la lactation continue pendant un certain temps, est-ce qu'elle va risquer de développer un cancer du sein à cause de ça?
Non, pas du tout. Vous pouvez rassurer cette auditrice et dire que ça n'a rien à voir avec cette situation qu'elle présente.
Alphonse Mbouaki, depuis la RDC, dit « Il paraît qu'une femme qui applique des parfums composés d'aluminium de façon régulière attrapera ce cancer. »
Vous savez qu'en Afrique, il y a tout. Il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui fantasment sur le cancer du sein. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vous parfumez le corps ou vous mettez de l'aluminium, je ne sais pas quoi, quelque part, vous allez faire un cancer du sein. Non, il faut rassurer cet auditeur-là. Les facteurs de risque, ce sont ceux que je venais d'énumérer. Le parfum n'a rien à voir avec l'apparition d'un cancer du sein.
Il y a deux auditeurs qui veulent savoir si certains aliments peuvent être incriminés dans la formation d'un cancer du sein chez la femme. Alfred Noël mentionne les aliments en boîte de conserve et Alphonse Mbouaki s'inquiète au sujet des vivres frais et des épices chimiques. Est-ce qu'ils peuvent provoquer le cancer du sein?
Il faut dire que les additifs qu'on met aujourd'hui dans les boîtes de conserve ont permis de ne plus avoir, je trouve, les cancers de l'estomac. Vous savez qu'à l'époque, au Japon, il y avait beaucoup de cancers d'estomac liés aux boîtes de conserve qui étaient mal gérés. Ben aujourd'hui, l'alimentation sous forme de conserve n'a rien à voir avec un cancer du sein.
Henri Kasongo Mulenda, depuis Kisangani, en République démocratique du Congo, il veut savoir à quel âge une femme peut développer un cancer du sein.
Il faut dire que jusqu'à 18 ans à peu près, il n'y a pas de cancer du sein. L'expérience qui est la mienne de 36 ans d'oncologie médicale montre que ma première malade très très jeune avait 19 ans. Avant 20 ans, normalement, il n'y a pas de cancer du sein. À Brazzaville, nous avons eu un cas d'un cancer du sein à l'âge de 19 ans, mais qui était un cancer d'ailleurs fulgurant. Comme vous le savez, plus on est jeune, plus le cancer du sein est méchant. Donc, à partir de 19 ans, 20 ans, on peut y avoir un cancer du sein.
Question de Alfred Nobel. Les femmes de la brousse, bon entendu, celles qui vivent dans la campagne, sont-elles aussi touchées par le cancer du sein au même titre que celles qui vivent en ville, ou bien cette maladie n'est-elle réservée qu'aux citadines? Le fait que ces deux groupes de femmes peuvent avoir un mode de vie différent a-t-il une incidence sur la formation du cancer du sein?
Non, le cancer du sein touche tout le monde, qu'on soit à la campagne ou en ville. Le seul problème, c'est qu'à la campagne, si vous n'avez personne pour vous dépister ou vous faire le diagnostic, on passera à côté du cancer du sein. Et on peut lier parfois cette pathologie à la sorcellerie. Bon, on rentre dans le domaine anthropologique ou domaine sociologique. Mais non, le risque est quasiment le même à la campagne comme en ville.
Est-ce que le cancer du sein, ça existe aussi chez l'homme?
Oui, bien sûr, madame. Quand on prend la population générale des cancers du sein, il y a à peu près 1% des hommes qui feront demain un cancer du sein. Oui, le cancer du sein, on le retrouve chez l'homme. Il est même beaucoup plus grave puisqu'il se développe dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, le cancer est tout de suite en contact avec les os, avec la paroi thoracique. Donc, il y a un risque d'essaimage au niveau des os. Et puis, ça va aller très, très vite dans les vaisseaux et puis se disséminer, aller se mettre partout et donner des enfants à distance.
Ok, c'est intéressant. On va faire une émission spéciale sur le cancer du sein chez l'homme.
Il n'y a aucun souci.
Les symptômes qui peuvent alerter quelqu'un sur la présence ou sur le développement d'un cancer du sein?
Oui, aujourd'hui, avec la méthode d'autopalpation, les dames, quand elles sont informées, découvrent très tôt l'apparition d'une boule au niveau du sein.
C'est le premier symptôme?
Le premier symptôme, c'est quand même un petit nodule qui apparaît dans le sein. Il n'est pas normal si au départ, vous n'avez rien dans le sein, que vous palpez un nodule. C'est même là où je conseillerais aux hommes de parfois palper les seins de leur femme. Ça peut être un sourire, mais c'est comme ça. Alors, on peut avoir une inflammation, c'est-à-dire que le sein devient gros, il brille, et quand on n'a pas l'information, on pense que c'est quelque chose de normal, alors que c'est la maladie qui est déjà là, qui est même évoluée sur le plan local.
Y a-t-il d'autres signes qui peuvent vous montrer qu'une femme est peut-être en train de développer un cancer du sein?
On peut avoir aussi un saignement à travers le mamelon. Ça, c'est quand il y a des cancers, que nous appelons les cancers intergalactophoriques. Vous pouvez avoir une plaie au niveau de la peau du sein, ce qu'on appelle des cancers ulcérés ou des cancers ulcéro-bourgeonnants. C'est-à-dire que vous avez une plaie et vous avez comme quelque chose de très charnu qui est en train de pousser à travers cette plaie. Parfois, on peut avoir une petite douleur sans pourtant qu'il y ait un nodule. Mais là, c'est très, très rare. Et quand c'est comme ça, vous partez voir votre gynécologue qui va procéder à faire un certain nombre d'explorations pour éliminer ou faire avec le cancer du sein. Voilà grosso modo à peu près les signes.
Alphonse Mbouaki revient, il se demande si dès qu'une tache noire apparaît sur la mamelle, est-ce qu'il faut que la femme aille voir directement un médecin pour examen ?
Si au départ vous n'avez rien sur votre sein et que vous observez une tache qui apparaît, si c'est une tache récente, si vous êtes inquiet, l'idéal serait que vous allez voir votre médecin parce que c'est une tache noire peut cacher quelque chose d'autre. Imaginez que ce soit une tache noire qui a l'aspect d'un grain de beauté et si ce grain de beauté s'ulcère, ça veut dire que c'est peut-être un cancer qu'on appelle le mélanome. Un homme qui est en train de s'installer. Donc, si vous avez une tache, oui, il faut aller voir son médecin. Il ne faut pas hésiter.
Comment est-ce que se fait le dépistage?
Il faut distinguer le dépistage et le diagnostic précoce. Ce sont deux choses différentes. En Occident, en France notamment, l'âge recommandé pour le dépistage est de 50 ans. La sociologie qui est la nôtre ici par rapport au cancer du sein montre que la moyenne d'âge des dames qui font le cancer du sein tourne autour de 40 ans. Donc, je suis enclin à penser que pour le Congo-Brazzaville, nous allons imposer le dépistage à partir de 40 ans. Mais non, l'idée serait qu'après 50 ans, ou bien après 40 ans, que tous les deux ans, que vous alliez voir votre médecin, que vous fassiez faire une mammographie pour voir s'il y a une petite boule. Et s'il y a une petite boule, vous avez la chance de guérir de votre cancer parce que le traitement sera moins mutilant, moins onéreux et moins long.
Est-ce qu'à Brazzaville, les femmes viennent facilement, de façon spontanée, se faire dépister, même quand elles n'ont rien remarqué?
Les choses ont beaucoup changé depuis une vingtaine d'années. À l'époque, parler du cancer du sein ou du cancer en général, c'était tabou. Mais depuis que Brazzaville s'est doté d'une école de formation des cancérologues, parce que, madame, je vous rappelle que l'école de Brazzaville a formé des médecins ivoiriens, des médecins sénégalais, des médecins béninois, des médecins guinéens, des médecins gabonais, des médecins béninois, des médecins camerounais. Maintenant, nous avons dans le service des médecins burkinabés. On en a aussi formé des burkinabés. Donc, nous parlons régulièrement des cancers à Brazzaville. Ce qui fait que la population est suffisamment sensibilisée et quand il y a un problème, bon, les gens viennent. Mais il en demeure qu'il y a encore des gens qui sont dans le déni ou le reni de la maladie, qui tardent à venir chez nous. Et vous savez, quand vous venez tard à la consultation, malheureusement, les traitements deviennent délicats, ça coûte cher, et puis on a très peu de résultats.
Professeur, il y a aussi des femmes qui vivent dans des localités éloignées de la ville où elles n'ont pas facilement accès à un centre de santé. Comment est-ce que vous vous arrangez, bien comment est-ce que les médecins peuvent s'arranger pour aider ces personnes-là?
Alors, ça, c'est une question qu'il faut poser aux hommes politiques. Parce que ce sont les politiques, c'est le gouvernement qui affecte les médecins dans les contrées. Mais encore faudrait-il que nous soyons nombreux pour que nous arrivions à couvrir tout le pays. Pour le Congo, l'école de médecine sort tous les ans entre 40 et 50 médecins aujourd'hui. Couvrir toute la République, c'est encore délicat. Mais le gouvernement s'y emploie à envoyer des gens en formation à Cuba. Donc, nous pensons qu'avec le retour de nos jeunes frères, on pourra les ventiler sur toutes les territoires de la République et commencer à régler ce problème-là.
Nous l'espérons aussi. Est-ce que toutefois qu'un sein grossit, on doit s'alarmer, dire que c'est un cancer?
Non, pas du tout. Le diagnostic du cancer du sein est un diagnostic anatomopathologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un prélèvement, qu'on va envoyer au laboratoire, et c'est le biopathologiste qui va nous dire qu'il y a un cancer du sein. Toute boule n'est pas seulement le cancer du sein. Vous pouvez avoir une boule qui est une tumeur bénigne. Donc, pour répondre à votre question, toute boule n'est pas synonyme de cancer du sein. Vous pouvez avoir une boule qui est en fait une tuberculose localisée dans le sein, qui n'a rien à voir avec le cancer du sein.
Léo-Émile Kakoundé pense que les femmes blanches sont beaucoup plus exposées au cancer du sein que les femmes noires. Est-ce vrai?
Non. Ça n'a rien à voir. Que vous soyez blanche ou noire, vous êtes exposé au cancer du sein de la même façon. Le seul problème, c'est que là-bas, vous avez des médecins de famille, donc vous avez des examens médicaux régulièrement. On peut détecter la maladie très facilement. Vous avez les corps médicaux qui sont très organisés. Voilà. Et chez nous, si vous habitez à 300 km de Brazzaville, une localité où il n'y a aucun médecin, comment voulez-vous qu'on puisse diagnostiquer votre cancer du sein à temps? Que l'on soit jaune, rouge, noir, blanche, comme vous voulez, le risque reste le même.
En cas du cancer du sein, y a-t-il une façon spéciale ou une façon particulière avec laquelle la femme doit prendre soin de sa poitrine?
prendre soin de sa prostate. Non, la femme doit rester attentive, tout simplement. Elle doit être vigilante. Dès qu'il y a une anomalie qui apparaît dans le sein, si on avait fait une petite chirurgie, elle doit repartir voir son cancérologue. Oui, bien sûr. Il faut repartir immédiatement, il ne faut pas attendre.
Henri Kasongo Mulinda, depuis Kisangani en République démocratique du Congo, se demande s'il y a un traitement approprié pour guérir ce cancer du sein.
Moi, je suis cancérologue depuis un peu plus de 25 ans maintenant. S'il n'y a pas les traitements, on n'aurait pas fait cette spécialité. Non, aujourd'hui, on arrive à guérir à travers le monde 7 cancers sur 10. Nous, en Afrique, nous sommes encore loin du compte parce que les gens arrivent en retard à la consultation. Les traitements sont difficiles à observer. Vous savez que chez nous, la plupart des traitements sont achetés par les malades. Pour répondre à votre question, il y a plusieurs types de traitements.
Et quels sont ces différents traitements?
Le premier traitement, c'est la chirurgie, qui consiste à enlever la tumeur. Cette chirurgie peut concerner tout le sein, on enlève tout le sein, ou bien on va seulement enlever la boule, mais en fonction du stade de la tumeur. Le deuxième traitement, c'est la radiothérapie.
En quoi consiste la radiothérapie?
La radiothérapie, c'est quoi? C'est l'utilisation des rayons pour brûler le sein, brûler la tumeur. Et puis vous avez les traitements médicaux, qui sont faits de chimiothérapie.
Le traitement à base de chimiothérapie, qu'est-ce qu'il implique?
C'est-à-dire qu'on va utiliser des drogues qui sont des poisons qui vont aller détruire les cellules tumorales. Mais malheureusement, quand ces drogues détruisent les cellules tumorales, elles n'épargnent pas les cellules saines. Vous avez l'hormonothérapie.
L'utilisation des hormones.
L'utilisation des hormones pour contrôler les cancers du sein, parce que le cancer du sein est un cancer hormonodépendant. Je ne rentrerai pas dans les détails pour les auditeurs. Et puis vous avez les thérapies ciblées aujourd'hui, parce qu'on connaît de mieux en mieux le fonctionnement de la cellule tumorale, on connaît ce que voit de signalisation, la tumeur a été bien décortiquée, donc on peut bloquer la tumeur à tous les niveaux. Et puis, bon, comme vous le savez, ça fait beaucoup de bruit à travers le monde, il y a l'immunothérapie.
Faire recours aux molécules.
Et l'immunothérapie, ce sont des molécules qu'on vous donne pour restaurer votre immunité, pour vous débarrasser de votre tumeur. Le cancer est tellement intelligent qu'il se cache. Il met en place des leurres et quand vous faites des traitements, parfois, vous n'atteignez pas la cible. Or, l'immunothérapie aujourd'hui va lever l'obstacle au niveau des leurres. Cet obstacle-là, c'est un leurre, il faut l'attaquer. Et l'immunothérapie, je crois que fera partie des traitements de demain. Ce sont les traitements d'avenir.
Pourquoi le traitement du cancer du sein doit-il impliquer le recours à plusieurs praticiens ou à plusieurs médecins?
Il est essentiel de se dire qu'on n'a pas le droit de soigner un cancer du sein seul. Si vous êtes dans un environnement où vous êtes plusieurs cancérologues, vous devrez soumettre le dossier de la malade à ce que nous appelons la réunion de concertation pluridisciplinaire.
Quelle est l'importance d'une telle réunion?
C'est une réunion qui fait appel au cancérologue, à l'anatomopathologiste, donc c'est-à-dire que le monsieur qui a pris le prélèvement, qui est allé regarder au microscope, qui fait appel même au radiologue, parce qu'on aura besoin du radiologue, qui fait appel au gynécologue, parce que c'est quand même le gynécologue qui va opérer, et tout ce monde-là installé dans un environnement pour parler de ce dossier, le cancer va arrêter une décision collégiale et va mettre en place ce qu'on appelle le plan personnalisé de soins de la malade. Et le cancer en avance et on travaille ensemble, c'est comme ça qu'on commence à avoir des bons résultats.
Supposons que vous êtes le seul médecin d'une localité qui se trouve peut-être dans la campagne, vraiment très éloignée d'autres villes ou d'autres villages. Comment procéderez-vous?
Il peut arriver que vous soyez seul à l'intérieur, vous n'avez pas d'autre choix, mais vous vous débrouillez, vous êtes cancérologue, vous ferez un peu la même chose. On vous base sur les référentiels, parce qu'on ne comprend plus là-haut. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des référentiels qui nous permettent de dire que pour tel cas de cancer, voilà ce qu'il faut faire.
Merci beaucoup, professeur. Merci vraiment d'avoir été notre invité.
Madame, c'est moi qui vous remercie pour votre bienveillance. C'est peut-être l'occasion de vous dire toutes mes félicitations parce que vous donnez là l'opportunité au peuple africain profond d'avoir quelques informations.
C'était notre entretien avec le professeur Jean-Bernard Kouambon, chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marie Ngouabi au Congo. Maintenant, place à Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, la bataille contre le coronavirus, urgence de santé publique de portée internationale. Un regard sur des prothèses uniques fabriquées au Nigeria. Vers la détection précoce du cancer du pancréas, l'une des formes de cancer les plus meurtrières. Nous verrons comment les chercheurs gagnent du terrain dans ce domaine. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Merci de nous rejoindre pour une autre édition de Carnet de santé. Il était encore quasiment inconnu il y a un mois seulement Le coronavirus 2019-nCoV constitue désormais une urgence de santé publique de portée internationale, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'infection provoque des symptômes tels que la toux, le mal de gorge et parfois la fièvre. Ce nouveau virus, qui a fait surface à Wuhan, en Chine, a infecté au-delà de 9000 personnes et fait plus de 200 morts dans le pays. Le virus s'est propagé dans plusieurs pays, dont le Japon, les États-Unis, l'Australie, la France et le Canada. L'Afrique a signalé des cas suspects de la maladie, entre autres en Côte d'Ivoire, au Kenya et au Botswana. L'Organisation mondiale de la santé affirme que la propagation du coronavirus est très préoccupante. Selon un expert en Chine, le virus pourrait gagner en force. Reportage de Zlatika Hope de la VOA.
La nouvelle réunion de l'OMS intervient alors que le nombre de patients contaminés a grimpé à près de 8000 en Chine, ce qui dépasse désormais largement celui de personnes infectées par le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, en 2002-2003.
Le monde entier doit être en alerte maintenant. Le monde entier doit agir et être prêt à tout cas qui vient, soit de l'épicentre d'origine, soit d'autres épicentres qui s'établiront.
Si la majorité des contaminations a eu lieu en Chine, une quinzaine de pays sont également touchés. Les Émirats arabes unis ont fait état du premier cas avéré au Moyen-Orient. Signal inquiétant, des transmissions interhumaines ont été enregistrées hors de Chine, en Allemagne, au Japon et au Vietnam.
Si la maladie gagne un pays avec un système de santé défaillant, cela pourrait être problématique.
La métropole chinoise de Wuhan, d'où est partie cette épidémie de pneumonie virale, est coupée du monde. Quelques 56 millions d'habitants sont interdits de quitter la région.
Pour en savoir davantage sur le coronavirus, nous joignons par Skype à Banjul, en Gambie, le professeur Martin Antonio de Medical Research Council Unit de Gambia, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Bienvenue, professeur Antonio.
Thank you so much for the warm welcome.
Il y a encore des idées fausses sur la façon dont les gens sont infectés par le coronavirus. Pourriez-vous nous éclairer?
Oui, comme nous le savons, il y a récemment eu une épidémie massive en Chine du coronavirus. Et juste le mois dernier, des collègues de l'Institut médical chinois ont publié un article dans The Lancet, séquençant 10 génomes qui ont été isolés de cas humains. Et ce que cela a clairement montré, c'est que tous ces 10 cas sont liés et qu'ils partagent environ 99,9% du génome de ce virus. Il s'agit donc vraiment d'une information très importante que la communauté mondiale doit prendre en considération.
D'accord, professeur Antonio, le coronavirus est maintenant une urgence sanitaire mondiale avec quelques cas suspects en Afrique. Par le passé, certains pays ont eu du mal à se préparer à des épidémies. Comment les pays africains se prépare-t-il ou comment devrait-il se préparer dans ce cas?
Depuis l'apparition de l'Ebola entre 2013 et 2015 en Afrique de l'Ouest, de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest sont en fait prêts à d'éventuelles poussées épidémiques. Et je sais que dans tous les pays, les systèmes de santé sont améliorés au fil des ans. Je parle de pays comme le Nigeria, avec plus de 12 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest, qui sont vraiment prêts à lutter contre cette épidémie. Ils ont déjà fait face à une épidémie antérieurement, comme la fièvre jaune et la fièvre de Lassa. Je sais que la Gambie, mon pays, et le Sénégal sont également bien préparés. En Afrique de l'Ouest, il y a une certaine organisation, une culture d'excellence. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les centres africains de prévention et de contrôle des maladies pour nous assurer que tous les pays de la sous-région disposent du kit de diagnostic et également qu'ils peuvent transmettre la séquence et identifier les particules virales circulant en Chine. Nous ne savons pas si c'est déjà en Afrique de l'Ouest. Nous attendons. Nous verrons.
Nous avons reçu des réactions et j'aimerais avoir vos commentaires. Phalange Touré a écrit sur Facebook: l'OMS doit trouver des solutions concrètes le plus rapidement possible pour sauver des gens de cette épidémie. Professeur Antonio, quelle est votre réaction?
En effet, mais je dois mentionner que jusqu'à présent, nous n'avons pas de cas confirmés en Afrique et nous travaillons en étroite collaboration avec les centres de prévention et de contrôle de maladies pour nous assurer que nous sommes en mesure de
réagir rapidement. Et je suis vraiment heureux d'annoncer que, contrairement aux épidémies précédentes, les Africains sont vraiment en mesure de déterminer le pathogène très rapidement et d'y répondre également.
Professeur Antonio, merci d'avoir répondu à nos questions. Le professeur Antonio Martin est professeur à London School of Hygiene et Tropical Medicine. Le cancer du pancréas est l'un des types de cancers les plus meurtriers car il est souvent diagnostiqué assez tard. Ce cancer est difficile à détecter et les symptômes n'apparaissent que lorsque la maladie est avancée. Mais comme le rapporte Carole Pearson de la VOA, les chercheurs commencent à faire beaucoup de progrès dans le diagnostic précoce de cette maladie.
Ruth Bader Ginsburg, juge de la Cour suprême des États-Unis, est peut-être la personne la plus célèbre du pays à avoir survécu au cancer du pancréas. Et ce, par deux fois. La chimiothérapie est l'un des traitements du cancer du pancréas, mais seulement 9% des personnes diagnostiquées sont en vie 5 ans plus tard. L'emplacement du pancréas rend le cancer difficile à détecter. Le pancréas se trouve à l'arrière de l'abdomen. Il est recouvert par l'estomac et le foie, de sorte que les tumeurs ou les kystes cancéreux ne peuvent pas être vus ou ressentis. Et il y a une chose supplémentaire.
Le cancer ne provoque aucun symptôme au début.
Patricia Bitti avait mal au ventre et lors d'une échographie, le médecin a trouvé un kyste.
Il m'a dit que le kyste était là et qu'il était précancéreux.
Les médecins peuvent analyser le liquide à l'intérieur d'un kyste, mais il est difficile de dire quels kystes deviendront cancéreux. Le docteur Somashekhar Krishna a mené une étude sur une nouvelle méthode de diagnostic qui donne aux médecins une vue microscopique de la paroi du kyste. Une sorte de biopsie virtuelle très précise.
Nous pouvons diagnostiquer les kystes avec une précision de 96 à 97%.
Un minuscule microscope permet aux médecins de voir l'intérieur du kyste.
C'est en regardant les images de la paroi du kyste que nous pouvons regarder en temps réel, nous pouvons conclure un diagnostic.
Avec ce nouvel outil, les médecins peuvent sauver des vies, mais les kystes ou tumeurs pancréatiques doivent encore être repérés le plus tôt possible. Ces nouveaux tests sont coûteux et ne peuvent pas être utilisés pour le dépistage de routine, donc cela n'aide pas la majorité des personnes diagnostiquées avec un cancer du pancréas. Le moyen le plus logique de diagnostiquer tôt le cancer du pancréas serait grâce à une analyse de sang, mais les chercheurs en sont toujours au stade expérimental.
John Amanam a 32 ans, il fabrique des prothèses hyper réalistes. Plus de détails avec Arzuma Compaoré.
Wow, this is lovely.
Avec son aspect hyper réaliste et exceptionnellement de couleur foncée, s'accordant parfaitement à la couleur de sa peau, la nouvelle main droite de Michael Sandé ressemble à un gant en silicone destiné à l'aider à reprendre une vie normale après avoir perdu 3 doigts dans un accident de voiture il y a 1 an.
Cela m'a vraiment aidé car je peux reprendre ma vie normale sans craindre la discrimination ou la pitié.
L'artiste derrière cette création, c'est John Amanam, un ancien expert en effets spéciaux de cinéma de 32 ans. Il a développé un intérêt pour les prothèses après qu'un membre de sa famille a perdu un membre dans un accident. Selon la taille et la complexité de la prothèse, il lui faut de 3 semaines à 2 mois pour en fabriquer une.
Je suis devenu émotif à propos des amputés quand j'ai découvert que j'avais une ou deux personnes de mon entourage qui avaient été amputées.
Amanam a donc commencé à fabriquer des prothèses de doigts, de mains, de bras, de jambes et d'oreilles en 2017, sans formation professionnelle de fabrication de prothèses, mais en se servant de son expérience en sculpture acquise alors qu'il était étudiant. Le résultat est très réaliste.
Rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou.
C'est la fin de ce magazine Votre santé, votre avenir. Nous étions en compagnie du professeur Jean-Bernard Kouambon, chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marien Ngouabi au Congo. Dans cette première partie consacrée au cancer du sein chez la femme, nous avons parlé des facteurs de risque, des symptômes et des traitements. Dans notre prochaine édition, nous discuterons des chances de guérison, de l'après-traitement et de quelques moyens pouvant permettre de minimiser les facteurs de risque d'un cancer du sein chez la femme. Nous vous avons également proposé Carnet de santé qui vous a été présenté par Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. À la réalisation, Zeina Abdelrahman. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.